Merci Julien et bonjour à tous. Aujourd'hui, les mystères de l'île de Pâques.
Il est, au milieu du grand océan, une île mystérieuse et isolée. Elle est plantée de hautes statues monstrueuses, œuvre d'on ne sait quelle race aujourd'hui disparue. Et son passé demeure une énigme. Pierre Loti.
D'histoire. Complètement perdue au milieu de l'océan Pacifique, à 4000 km à l'est de Tahiti et à 3800 km de la côte chilienne, l'île de Pâques est tellement isolée qu'on se demande encore comment ses premiers habitants ont pu venir un jour s'y installer et d'où ils sont venus. C'est un des nombreux mystères de cette île dont les statues colossales ont fasciné pendant des siècles tous les voyageurs européens. Depuis le navigateur hollandais Jacob Roggeveen, qui fut le premier à les découvrir le jour de Pâques 1722, jusqu'aux touristes d'aujourd'hui, en passant par le capitaine Cook, La Pérouse, Pierre Loti, ou encore l'anthropologue français Alfred Métraux, qui arrivait à l'île de Pâques en 1934.
Nous sommes dans l'île de Pâques depuis 5 mois. Un aviso français, le Rigaud de Genouilly, nous y a déposé. Un voilier belge, le Mercator, vient nous reprendre. À notre tour, après tant d'autres, nous venions interroger les statues de l'île de Pâques. L'île de Pâques serait le sommet d'un continent englouti, frère jumeau de l'Atlantide, et les grandes statues, les images divines d'un monde disparu dans la nuit de l'histoire.
Michel Ordiac, bonjour. Alors, vous êtes chercheur au CNRS et auteur avec votre femme Catherine d'un livre sur l'île de Pâques, dont parlait à l'instant Alfred Métraux. Enfin, à l'instant, c'était en 1934. Alfred Métraux, c'est un nom qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais c'était un grand anthropologue français. Et grâce à lui, on sait beaucoup plus de choses aujourd'hui sur l'île de Pâques.
Oui, c'est avant tout un grand américaniste, mais il a fait à l'île de Pâques un travail qui sert de base à tous les travaux actuels. Il a rédigé une synthèse superbe. Après son séjour fait avec Henri Lavacherie, un Belge, et lors de cette mission franco-belge de 1934-1935. Et cet ouvrage publié par le Bishop Museum sert de référence à tous les écrits postérieurs sur l'île de Pâques.
Et donc au vôtre, je suppose. Alors, comment se fait-il ? Parce que l'île de Pâques, après tout, c'est jamais qu'une des milliers d'îles qui existent dans le Pacifique. C'est pourtant une des plus connues. Pourquoi est-elle... Qu'est-ce qui fait sa célébrité ? Est-ce que ce sont seulement les statues ou son isolement, tout simplement ? Je crois que c'est, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était une des îles les plus éloignées de terres connues dans le monde.
Oui, c'est l'île peuplée, en tout cas, la plus éloignée que l'on connaisse dans le monde. L'île de Pâques, même sans ses statues, représenterait un exploit humain extraordinaire, parce qu'il a fallu y arriver. Elle est vraiment très très loin de tout, et elle ne pouvait être peuplée que par ce peuple de marins extraordinaires que sont les Polynésiens.
Quand est-ce qu'ils sont arrivés, d'abord, les premiers habitants de l'île de Pâques, avant que les Européens arrivent ?
Les premiers Pasquans... Vous savez, c'est des choses qui peuvent changer très rapidement. L'archéologie est encore récente dans cette région. Mais pour l'instant, il y a une chose qui paraît à peu près certaine, c'est qu'ils sont arrivés après le 8e siècle. Des dates plus anciennes ont été proposées naguère, mais on s'est aperçu depuis que les datations qui avaient permis d'établir ces dates n'étaient pas très sûres.
Alors Michel Jacques, vous dites que c'est un exploit, c'est vrai. Il faut rappeler que cette île, elle est toute petite, elle est non seulement très loin de tout, mais elle fait, je crois, 15 km sur 21. C'est un confetti dans l'océan Pacifique. Comment est-ce qu'ils ont pu tomber dessus ? Par exemple, Magellan, quand il est passé très loin, personne ne l'a vu. Il y a des tas de navigateurs à partir des grandes découvertes qui ont dû passer à côté sans l'avoir, et eux, ils sont tombés dessus, et puis ils sont venus de très loin. D'ailleurs, d'où venaient-ils ?
C'est des gens qui... Oh, l'île de Pâques, c'est vraiment le terme d'un voyage tout à fait extraordinaire qui a conduit des populations du sud-est asiatique jusque-là et même certainement jusqu'en Amérique. En tout cas, leur trace y est restée quasiment invisible. C'est vraiment le point ultime atteint par les Polynésiens. Donc des populations austronésiennes sont parties de la région de Taïwan il y a 7000 ans environ. On les retrouve, il y a 3500 ans, à l'ouest du Pacifique, en Mélanésie, dans ce qui deviendra la Mélanésie. C'est-à-dire ces petites îles qui sont entre l'archipel Bismarck et la Nouvelle-Calédonie, et les îles Fidji. Bon, on les retrouve donc très précocement là, et ensuite, il faut attendre plus d'un bon millénaire, pour les retrouver au centre du Pacifique, après le 5e siècle de notre ère.
Donc ce sont des Polynésiens, en fait.
Ce sont des Polynésiens, bien sûr.
Et alors, bon, ils avancent par saut de puce, enfin, si on peut dire, parce qu'il faut des grandes puces, c'est des bons 4000 kilomètres en ce qui concerne l'île de Pâques. Alors, ils s'y installent, et puis ils vont rester tout seuls, comme ça, pendant à peu près 8 siècles, puisque s'ils arrivent au 8e siècle, ça fait même plus, près de 10 siècles, oui. Avant que les premiers Européens, je l'ai dit, arrivent. En fait, un Hollandais, Jacob Roggeveen, c'est lui, d'ailleurs, qui a donné son nom à l'île de Pâques, puisqu'il arrive le jour de Pâques 1722. Il reste 5 jours, il donne son nom à l'île. Ensuite, il y aura des Espagnols, alors qu'ils vont la débaptiser, parce qu'ils la prennent en 1770, je crois, oui. Ils la prennent au nom du roi d'Espagne, Charles III, c'est devenu l'île de San Carlos. Et puis alors, arrive à la fin du 18e, d'autres explorateurs, le capitaine Cook en 1774, la Pérouse en 1786, le récit de leur découverte de l'île par Stéphanie Duncan.
Oui, le 14 mars 1774, le capitaine Cook débarque sur l'île de Pâques. Les indigènes, très accueillants, lui font bonne impression. Les habitants de ces îles, dit-il, sont en général d'une race frêle et leur taille est petite. Ils sont vifs et actifs, ils ont des traits réguliers, assez agréables. Les hommes sont tatoués de la tête aux pieds, les femmes ornées de peintures rouges et blanches. Ils sont bien disposés et hospitaliers avec les étrangers. Mais, ajoute Cook, ils peuvent rivaliser pour leur propension au vol. Alors, Cook s'attarde, bien sûr, devant les grandes statues. Nous avions de la peine à concevoir comment ces insulaires, totalement dépourvus de moyens mécaniques, avaient pu élever ces étonnantes sculptures, dit-il. Cela a dû être une œuvre de longue haleine et montre suffisamment le degré d'industrie et la persévérance des insulaires. En écrivant ces lignes, Cook, bien sûr, ne se doute pas qu'il va pendant longtemps susciter la curiosité des Occidentaux, une renommée qui, à terme, sera fatale pour l'île. Cook, au contraire, pousse les navigateurs à passer leur chemin. Peu d'endroits au monde, dit-il, offrent moins de commodité pour la navigation. Il faut vraiment une nécessité absolue pour décider quiconque à toucher cette île. En 12 ans après Cook, le Français La Pérouse, en arrivant à l'île de Pâques, découvre lui aussi des hommes pacifiques. Les Indiens, dit-il, montèrent à bord avec un air riant et une sécurité qui me donnèrent la meilleure impression de leur caractère. Des hommes plus soupçonneux eussent craint de se voir enlevés et arrachés de leur terre natale, mais l'idée d'une perfidie ne parut même pas se présenter à leur esprit. Ils étaient au milieu de nous, nus et sans aucune arme. Une simple ficelle autour des reins servait à fixer un paquet d'herbes qui cachait les parties naturelles. Alors, La Pérouse s'étonne aussi de la filouterie des passe-coins et de la liberté sexuelle des femmes. Les femmes, dit-il, offraient leur faveur à tous ceux qui voulaient leur faire des présents. Et pendant les agaceries des femmes, on enlevait nos chapeaux sur nos têtes et les mouchoirs de nos poches. Alors, ce que décrit ici cet homme des Lumières, La Pérouse, c'est à peu près le bon sauvage de Rousseau. D'ailleurs, La Pérouse se fait un point d'honneur de se conduire en véritable humaniste. Nous n'avons abordé dans cette île, dit-il, que pour leur faire du bien. Nous les avons comblés de présents, nous avons accablés de caresses tous les êtres faibles, nous avons semé toutes sortes de graines utiles, nous avons laissé des cochons, des chèvres et des brebis et nous ne leur avons rien demandé en échange. Alors, au XIXe siècle, les navigateurs qui abordent l'île de Pâques n'ont plus l'élégance, même naïve, de Cook ou de La Pérouse. Ils viennent pour piller cette fois, si bien qu'en 1825, l'anglais Beechey est accueilli à coups de pierre. Tous hurlaient de toute la force de leurs poumons et se pressaient autour des canaux avec toutes sortes de grimaces et de gesticulations.
Comment expliquer, Michel Orliac, ce changement d'attitude? Au XVIIIe siècle, ils accueillent plutôt bien La Pérouse et Cook. Et puis alors, au début du XXe, voilà que les Pascons accueillent les Européens à coups de pierre. Qu'est-ce qui s'est passé?
Cook, La Pérouse, c'est l'Europe des Lumières, comme vous le disiez. Les marins avaient pour consigne, les consignes royales, de bien se comporter avec les gens. Et quand il y avait des accidents, c'était vraiment des accidents. C'était des gestes incompris qui entraînaient parfois un coup de mousquet, mais enfin, ça s'arrangeait très bien. Le siècle de fer s'installe très vite et ce sont des gens tout à fait nouveaux qui envahissent le Pacifique. Le 19e siècle, c'est dans le Pacifique l'ère de la chasse à la baleine, de la cueillette du santal, de la traite des indigènes, pour alimenter les plantations qui commencent à s'installer à droite à gauche. Et c'est un siècle très cruel.
Vous citez justement en 1805, c'est peut-être ça qui a changé la mentalité des Pascuans, un bateau américain, le Nancy, qui enlève des Pascuans. Et puis alors surtout, alors en 1862, quelque chose d'épouvantable dans la mémoire encore, je crois, des Pascuans, c'est des Péruviens qui en capturent la moitié de la population de l'île de Pâques pour la faire travailler dans des mines de guano, je crois, au Pérou. Et là, ça a décimé la population, surtout que très peu nombreux sont ceux qui sont revenus, et ils sont revenus en plus avec la tuberculose et la vérole.
Oui, oui. L'île de Pâques a connu plusieurs catastrophes. Et celle-là, c'est une des dernières, mais pas la dernière. Et la population, comme je vous le disais, des pirates parcouraient le Pacifique dans tous les sens, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, pour capturer les populations, pour les contraindre au travail dans des plantations dans les îles du Pacifique Sud ou sur le continent en Amérique du Sud. Et c'est le cas là, il y a environ 1000 personnes qui ont été raptées de l'île de Pâques pour être emportées au Pérou, pas tellement pour le guano, apparemment, ce n'est pas la réalité historique, mais plutôt pour servir dans les latifondias comme travailleurs agricoles. Ils sont tous morts, d'ailleurs, très rapidement.
Et cela bien avant l'arrivée beaucoup plus pacifique, c'est le cas de dire, du commandant Cousteau, dont l'équipe, en 1977, est fascinée par la langue et les chants des Pascuans, les habitants de l'île de Pâques.
Ces chants les plus anciens sont demeurés plus purs qu'en Polynésie, du fait du long isolement de l'île à l'abri de toute influence étrangère. Ils n'ont été conservés que grâce aux efforts de quelques savants et amateurs passionnés. Le docteur Raymond Campbell, par exemple, médecin de l'île, qui fait entendre ses enregistrements au commandant Cousteau.
Le docteur Campbell a été très surpris lorsqu'il a enregistré ce chant ici pour la première fois. Il n'avait jamais rien entendu de semblable dans aucune des îles du Pacifique. L'analyse scientifique de cette musique, dit-il, montre qu'elle est fortement influencée par la musique des Indes, tandis que les paroles sont inspirées par de vieux poèmes chinois.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'île de Pâques.
Et un chant traditionnel justement de l'île de Pâques, chanté en pascuan, tapéa irato. C'est la langue des pascuans, ça a beaucoup intrigué aussi les explorateurs, Michel Orliac.
Oui, c'est ce qui a fait comprendre à Cook que les pascuans appartenaient vraiment au monde polynésien. Mmh. Parce que Cook, dans son second voyage, avait emmené avec lui un tahitien. Et le tahitien a pu converser avec les Pascuans.
Alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis des siècles.
Ils s'étaient quittés depuis très très longtemps, vraisemblablement. Ouais. Et de la même façon, toujours le même Tahitien a pu converser avec des Maoris de Nouvelle-Zélande. Ça montre l'unité qui est restée, celle du monde polynésien.
Alors une société quand même très originale par rapport aux autres, c'est une monarchie, avant l'arrivée des Européens, dirigée donc par un roi. L'île est dirigée par un roi dont l'autorité repose sur son mana. Ça veut dire quoi, le mana?
Le mana, c'est la puissance qu'un homme a reçue des dieux, tout simplement par son origine divine. L'aristocratie en Polynésie est nécessairement d'origine divine, c'est-à-dire que dans sa généalogie, les premiers membres de la généalogie sont des dieux. Alors voilà, il y a donc des dieux, des forces surnaturelles qui lui permettent d'assurer la fertilité du pays.
Alors vous dites que ce roi régnait donc, d'ailleurs vous avez parlé d'aristocratie, sur une société très hiérarchisée, je crois, divisée en tribus et en clans qui s'affrontaient dans la grande fête religieuse des anciens pascuans, la fête de l'homme-oiseau, décrite en 1977 par un membre de l'équipe Cousteau.
Les chefs et les prêtres des différentes tribus, me dit le professeur Figueroa, s'assemblaient ici chaque année, au début du printemps. Leurs champions respectifs, qui étaient les meilleurs nageurs, devaient aller chercher le premier œuf de Manutara, c'est-à-dire de sterne, un petit oiseau de mer migrateur. Pendant que les chefs et les prêtres célébraient les rites du culte de la fertilité, les nageurs attendaient de pouvoir s'emparer du premier œuf qu'ils ramenaient à la nage à leur chef, qui devenait aussitôt le Tangata Manu, ou homme-oiseau.
Où sont les hommes qui s'affronteront à Orongo au printemps et qui braveront les requins jusqu'à Motunui pour rapporter l'œuf de Manutara? Car le vainqueur désignera le prochain homme-oiseau qui règnera sur les clans. Que les champions se fassent connaître.
Kaumea, Pomokoi, clan Barama.
Ah, c'était l'extrait d'un film de fiction, Rapa Nui. C'est quoi cette cérémonie et ce qu'on appelle l'homme-oiseau, Michel Orliac?
Ah, c'est une cérémonie relativement récente dans l'histoire de l'île de Pâques, qui est certainement postérieure, qui date du XVIIIe siècle, mais pas avant. Hein. C'est sans doute qu'à ce moment-là, les gens se sont aperçus ou ont pensé que le roi, la dynastie légitime de l'île de Pâques n'était plus suffisante pour assurer la fertilité du pays, comme je le disais, puisque c'était son rôle principal. Et je ne sais pas par quel mystère la population a décidé de doubler cette puissance surnaturelle du roi par celle plus momentanée d'un homme désigné chaque année à l'issue une compétition entre tribus qui consistait pour des champions, un petit peu comme les chevaliers du Moyen-Âge, à aller chercher sur cet îlot qui est distant quand même de plus d'un kilomètre de la côte.
Au sud de l'île de Pâques.
Hein. Au sud de l'île de Pâques, d'aller chercher le premier œuf pondu par les sternes. Hein, ça se passe donc c'est à un moment très très précis de l'année, c'est le printemps, c'est-à-dire le moment où s'annonce la future fertilité du pays. Et cet œuf conférait donc au maître du champion la dignité d'homme-oiseau pour l'année. Mmh. On lui donnait un nom et cette année portait le nom de cet homme-oiseau. Et c'est donc son rôle principal était d'assurer la fertilité du pays.
Un peu en concurrence avec le roi, alors, si je comprends bien.
Je crois que c'était... Oui, c'était en concurrence. C'était aussi pour subvenir aux défaillances éventuelles de la royauté légitime.
Alors, c'était le culte d'une religion dans laquelle il y avait, vous le dites aussi, plusieurs dieux, je crois à peu près 80, dont le principal, qui est inconnu dans toutes les autres îles du Pacifique, s'appelait Makemake.
Makemake, oui. Makemake, c'est un dieu à l'origine de toute chose. Il a un compagnon, quand même, qui s'appelle Fawa. Et Makemake est à l'origine de toutes les créatures de la Terre, de tout ce qui existe sur la Terre. Des hommes, entre autres, et c'est lui qui désignait, en fin de compte, l'homme-oiseau. Parce que si un homme se révélait plus compétent que d'autres pour trouver ce premier œuf, c'est parce qu'il était guidé par Makemake, bien sûr. Et Makemake, c'est avant tout le dieu de la fertilité. Mmh.
Justement, de quoi vivaient-ils ces Pascans à l'époque? Parce que est-ce qu'ils avaient de quoi survivre? Et combien étaient-ils, disons, au XVIIIe siècle, au moment où commence ce culte de l'homme-oiseau, Michel Orliac?
Oui, les différents navigateurs qui nous décrivent la population de l'île de Pâques parlent d'une population d'environ 2000 personnes. Mmh. Ce qui paraît tout à fait raisonnable quand on voit les traces d'habitat. Peut-être ont-ils été un peu plus nombreux avant. Ils avaient déjà supporté ils avaient triomphé d'une autre catastrophe que celle provoquée par les Péruviens, c'est-à-dire qu'il y a eu une catastrophe écologique à l'île de Pâques qui a fait disparaître les arbres et qui a changé considérablement toute l'économie de l'île de Pâques et ses productions, y compris les productions artisanales, y compris, bien sûr, la production de ces grandes statues.
Alors justement, un autre mystère qui est le plus célèbre et qu'on a gardé évidemment pour la fin, ces fameuses statues, ce qu'on appelle, je crois, les Moai, Michel Orliac. Alors, juste pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, on ignorait d'ailleurs à quoi elles servaient. Elles étaient tellement mystérieuses que les auteurs ou les amateurs de science-fiction leur disaient qu'elles avaient une origine extraterrestre.
Elles sont surprenantes. Ça, c'est évident. En Polynésie, de toute façon, c'est un phénomène très particulier à l'île de Pâques. Il y a bien de grandes statues en pierre ailleurs, en Polynésie, mais elles sont très peu nombreuses et elles apparaissent plutôt comme des accidents. C'est pas la règle générale. À l'île de Pâques, il y a 800 statues en pierre, immenses, dont certaines mesurent 10 mètres de haut. Hein ? Leur taille moyenne est d'environ 4 mètres.
Il y en a même une, dites-vous, qui mesurait plus de 10 mètres et qui pèserait 150 tonnes.
Il y en a une qui n'était, comme la plupart de celles qui sont restées dans le volcan du Ranuraraku, où elles ont été presque toutes extraites, et il y en a une qui mesure 22 mètres de long, plus de 22 mètres de long. Et celle-ci, de toute façon, n'était pas, de toute évidence, destinée à être déplacée. Comme je le disais, comme la plupart des autres statues qui sont restées en place dans la carrière. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas pu les déplacer, c'est simplement qu'elles étaient là pour glorifier le sanctuaire.
Alors justement, elles sont tellement grandes, tellement lourdes, qu'on s'est évidemment demandé comment elles avaient été fabriquées, et surtout comment on avait pu les redresser, les transporter, parfois sur plusieurs kilomètres. On écoute, c'est encore cet extrait du film Rapa Nui, la fabrication et le transport d'une moaï, une statue de l'île de Pâques.
Je veux qu'il soit prêt dans 6 lunes.
Mais grand prêtre, c'est impossible. Le dernier moaï nous a déjà pris 6 lunes. Il était moitié moins grand.
Interrompez les autres moaï pour vous consacrer à celui-là. La Riki veut qu'il soit terminé pour la course de l'homme-oiseau au printemps.
Matouitani, je me fais du souci. Les familles ont trop de bouches à nourrir. Toute la terre se transforme en poussière. Ce sont les moaï, Matouitani. Ils ont tout dévoré.
En arrière! On est prêt à rouler?
Les cordes sont prêtes?
Oui!
Dégagez-la!
Alors, d'après, c'était un autre extrait de Rapa Nui, d'après ce qu'on entend, Michel Orliac, il fallait des cordes pour transporter les moaïs. Hein, et ces statues, comment est-ce qu'on les fabriquait aussi? Elles étaient allongées, je crois, il fallait les redresser après,
alors,
c'est
ça? Les statues proviennent presque toutes, à 95%, même un peu plus, du même endroit. C'était une montagne sacrée, ce n'est pas du tout une carrière. C'est un endroit, avant tout, un endroit sacré, dont on transportait les forces surnaturelles tout autour de l'île, sur les monuments, qui sont un petit peu l'équivalent de nos églises, à la fois de nos églises et de nos cimetières, et qui étaient les monuments de chacun des groupes. Et donc ces statues étaient faites toutes sculptées dans ce volcan du Ranuraraku et parcouraient après tous les territoires de l'île pour rejoindre leur emplacement définitif sur des grandes plateformes.
Qui étaient des cimetières ?
Qui étaient en même temps des cimetières.
Ah oui.
Oui, oui. C'était à la fois l'endroit où les gens se rassemblaient pour faire leurs fêtes civiles et bien sûr toutes leurs fêtes religieuses. Et il n'y avait pas de ces immenses plateformes, il y en a plus de 250. Toutes ne portent pas des statues, bien sûr.
Alors, les statues sont toujours là, mais qu'est-ce qui reste de la religion des Pascuans, Michel Orliac?
Ah, les Pascuans sont
très... Parce que je crois qu'ils ont été convertis à la fin du 19e siècle, ils sont tous chrétiens, en fait.
Oui, oui, les Pascuans sont très catholiques, mais ils ont intégré, il suffit de visiter l'église d'Angaroa pour s'en apercevoir, ils ont intégré les anciens dieux.
Ah bon?
Oui, aux dieux chrétiens, enfin aux saints, plus exactement, pas aux dieux chrétiens, mais aux saints chrétiens. Et on peut voir des statues qui sont très syncrétiques, comme on dit, qui rassemblent les caractères de nos saints catholiques et des êtres surnaturels du Panthéon Pascuan.
Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu Cook, hein, il y a eu la Pérouse, il y a eu des scientifiques au 18e, puis il y a eu les pirates au 19e, enfin des gens qui venaient piller l'île de Pâques. Mais il y a eu aussi des missionnaires, vous en citez un notamment, je crois que ça s'appelait Héro, c'est ça?
Oui, le frère Héro, oui.
Et c'est lui qui a converti en fait tous les Pascuans à un catholicisme très syncrétique aujourd'hui.
Lui et d'autres pères, parce que le pauvre Héro a vécu 9 mois de calvaire, c'est les 9 premiers mois, ont été très pénibles pour lui, et puis il est revenu après. Lui, il était frère, c'est-à-dire qu'il n'était pas ordonné. Il est revenu après, en 1866, et en 1868, les prêtres qui étaient là, avec le frère Héro, prétendent avoir converti toute la population.
Aujourd'hui, au début du 21e siècle, combien sont les habitants de l'île de Pâques? Est-ce que ce sont uniquement des Pascuans? Vous y allez souvent, vous, je sais que vous y allez souvent,
oui,
vous travaillez à Tahiti très souvent, et vous allez à l'île de Pâques.
Les Pascuans sont environ 3000 dont la moitié se réclame d'une origine pascouane. Ouais. Et l'immigration des continentaux, des Chiliens continentaux, est de plus en plus importante.
Oui, parce que c'est une île chilienne. Hein,
bien sûr, c'est une île chilienne depuis 1888. Mmh. Oui. Mais le fond de la population reste très, très pascouan.
Avec plus de touristes qu'avant, parce qu'il y a maintenant des avions. J'ai même appris, d'ailleurs, que l'aéroport de l'île de Pâques avait été rallongé pour pouvoir recevoir, en cas d'urgence, la navette spatiale américaine. C'est quand même extraordinaire d'imaginer cette navette atterrir au milieu de statues qui sont millénaires.
Oui, il y a une station qui permet effectivement de faire atterrir la navette en cas de nécessité.
Ça, c'est assez quand même assez. Mais aujourd'hui, de quoi vivent-ils?
Le Concorde y atterrissait aussi. Ça permettait aussi au Concorde d'y atterrir. Oui,
je sais qu'il y a aussi des bateaux prestigieux, la Jeanne d'Arc, bateau français qui y va régulièrement au cours de ses voyages. Merci, Michel Orliac. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec votre femme, Catherine Orliac, de L'île de Pâques, qui vient d'être réédité par les éditions Gallimard dans les collections Découverte. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire Le Testament de l'île de Pâques du commandant Cousteau, ainsi que deux extraits du film Rapa Nui, réalisé par Kevin Reynolds et distribué par le studio Canal+. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute. Et pour une bibliographie plus complète, vous pouvez consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Benjamin de la Gâtinais et Anne-Laure Cochet, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.